Chaque jeudi à partir de 11h30 sur la 1337, retrouve la première émission dédiée à la santé mentale, le club Biponair, avec Vince, jusqu'à midi.
Ravi de vous retrouver les amis et les auditeurs de la 1337. Retrouvez cette émission également en podcast juste à la fin de l'émission. Le sujet du jour, bipolarité, on en saura plus grâce au micro-trottoir que j'ai réalisé. Et également l'interview en fin d'émission de Kanda Brada. Il a donné cette interview sur France TV Slash, une chaîne du groupe France TV. On a recueilli ce témoignage, un témoignage poignant qui, j'espère, pourra vous aider. Pour l'heure, voici tout de suite le micro-trottoir de la bipolarité. Pour en savoir plus sur cette maladie, on en parle dans l'émission et puis également une émission consacrée musicale cette semaine, puisque vous retrouvez d'ailleurs notre rendez-vous tous les mois sur la 1337, le club Biponair, jusque midi, ravi de vous accompagner. Prochain rendez-vous dans un mois.
Quelqu'un qui a plusieurs personnalités.
Moi, je suis un gros bipolaire.
Quelqu'un qui change d'humeur.
C'est avant, on appelait ça maniaco-dépressif, je crois. Être super heureux et d'un coup péter un câble.
Quand on n'arrive pas à gérer une émotion, en fait.
Alors, dans ces définitions, il y a du vrai, il y a du faux. Le trouble bipolaire, c'est une maladie qui se caractérise par l'existence de phases d'excitation, qu'on appelle des phases maniaques, et des phases de dépression. Où ça, en général, les gens voient mieux de quoi il s'agit. C'est un trouble qui est chronique, mais avec un suivi et un traitement, les patients peuvent être complètement dans leur personnalité sans avoir justement d'accès d'excitation ni de dépression. Alors en ce moment, il y a beaucoup d'utilisation et de mésusage du terme bipolaire et en général pour dire quelqu'un de lunatique. C'est pas en fait vouloir un jour prendre un café et l'autre un thé, c'est pas ça être bipolaire. Être bipolaire, c'est quelque chose de plus compliqué, de plus lourd et qui engendre beaucoup plus de souffrance. Pour donner un exemple, il y a le film Happiness Therapy, donc une comédie romantique hollywoodienne très classique, mais qui met en scène Bradley Cooper avec un trouble bipolaire. On le voit dans des phases d'excitation où ça va très très vite dans sa tête, avec aussi une alternance de phases plutôt de dépression. Et le regard est assez intéressant, c'est pas quelqu'un de dangereux, c'est pas un serial killer, c'est pas quelqu'un qui a deux personnalités, donc ça correspond à peu près bien à ce que peut être le trouble bipolaire.
Chaque jeudi à partir de 11h30 sur la 1337, le club Biponair, la première émission dédiée à la santé mentale sur la 1337.
Merci d'avoir suivi ce micro-trottoir réalisé dans des conditions du direct. Le but de ce micro-trottoir, on l'a entendu également avec le témoignage d'un docteur, c'est de définir la maladie non pas que par ses troubles, par des sautes d'humeur, mais bien une maladie concrète qui se soigne et qui ne doit pas isoler la personne qui en souffre. On comprendra mieux également en fin d'émission grâce à l'interview de Kanda Brada qui a bien maîtrisé sa maladie, qu'il a associée à son quotidien et on l'écoutera ça donc en fin d'émission. Je vous conseille également le site lebipolaire.com où vous pouvez passer un test de 40 questions qui est vraiment très très bien fait et qui vous permettra d'ailleurs de vous placer sur une échelle de « dois-je consulter un médecin ? Suis-je vraiment bipolaire ? Ou est-ce juste peut-être une phase de remise en question hein ?» C'est effectivement, comme disait dans le micro-trottoir, c'est pas être lunatique. Donc ce test est vraiment bien fait. Et si vous avez diagnostiqué bipolaire sur lebipolaire.com, vous pourrez également faire un calendrier de vos états d'humeur qui vous permettra de mieux gérer votre quotidien. Voilà ce qu'on pouvait dire dans les quelques mots. Cette émission, je vous le rappelle, c'est une demi-heure par mois sur la 1337, une radio dédiée aux jeunes, aux adolescents et également donc à un public varié. Donc le but, c'est de dédramatiser également les maladies mentales, d'où l'image que nous a créée Guillaume. Merci à toi pour cette image avec le cerveau et le micro attachés. Le but, c'est de dédramatiser, mais aussi de simplifier, de vulgariser la santé mentale. Donc, on en parle en quelques mots. Et si vous souhaitez témoigner, c'est toujours possible dans la rubrique commentaires ou au 09 72 28 98 50. 09 72 28 98 50. Promis, à partir de janvier 2024, l'émission sera en direct. Vous pouvez participer en nous appelant. Et ce numéro est entièrement gratuit. Et je vous propose une petite musique et on revient juste après ça. Et on expliquera également le choix de cette musique. C'est notamment Ben Mazuet qu'on s'écoute.
Oula, faut que j'envoie ces lettres. Faut que je rappelle mon père d'abord, faut que je prévoie cette fête. J'ai promis de faire pour le disque d'or, faut que je pense à l'été. Trouver des colos pour les gamins, demander quand est-ce que je les ai. Et puis pour qu'ils voient leurs cousins, faut que je sache ce que mes sœurs ont prévu. Elles vont me dire qu'elles me l'ont déjà dit. Je vais répondre oui mais que je sais plus, puis faudra que je pense à samedi. J'aimerais les emmener à la mer, loin de ces humeurs grisâtres. Et dimanche on ira voir mon père, on regardera le match tous les quatre. Pour ça faut que je l'appelle d'abord lui, puis cette fille à qui j'avais promis. Déjà il y a 5 jours que demain, je la contacterai c'est certain. Et que je lui donnerai mon avis sur ce truc là qu'elle a sorti. Un podcast sur les interdits, que j'ai trouvé d'ailleurs très bien. Et puis faut que je poste un beau contenu, je sais pas, un truc nouveau. Et vu le temps que je passe dessus, beaucoup trop peu pour que ce soit beau. Ça va être nul et le pire c'est que je vais réussir à trouver un autre que moi à qui en vouloir pour ça. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir. J'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire, je vais me relever.
À côté de ça, il y a le silence de mes amis, à qui j'ai renoncé par amour, et qui me rappelle qu'aujourd'hui, je n'ai plus ni elle, ni le temps pour ne serait-ce que les reconquérir. Et puis plus on vieillit, moins on comprend les gens qui nous entourent. Plus on vieillit, moins on comprend tout court. Alors il y a l'amour des enfants, avec ça tu manques plus de rien. Moi je les aime tellement justement que j'ai tout le temps peur de pas faire bien. Faut dire qu'on parle des blessures faites par le regard d'un père. La moitié des gens malheureux sur cette terre le sont de cette manière. À quoi sert vraiment l'exigence? Pourquoi on souhaite être excellent? Quand on voit dans quelle déshérence se retrouvent les génies souvent. Moi je voudrais leur apprendre à être heureux avant d'être brillant. Je voudrais leur apprendre à être heureux souvent. Souvent. Et ce que je veux pour ce que je veux, c'est bien moins important que ce que je suis. Les gamins, c'est faites ce que je fais, pas faites ce que je veux, encore moins faites ce que je dis. Dans ce cas-là, tant mieux pour la musique, tant mieux pour l'énergie, tant mieux pour les envies. Et pour le reste.
Midi, on parle de santé mentale dans le club Biponer avec Vince sur la 1337.
C'était Ben Mazuet, Quand je marche. Le choix de cette chanson veut en dire long, hein, tout à fait. Le but, c'est de marcher. Marcher quand on a un état de déprime permet de se régénérer, de s'oxygéner le cerveau, de moins ruminer. Je vous conseille donc de faire une longue marche ou tout simplement de se poser au moins 45 minutes par jour pour observer, voir l'horizon, se détacher des écrans, mais aussi prendre du temps pour soi, pour faire une activité qu'on aime. Vous retrouvez également des conseils d'un psychologue très fort sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Facebook en réel également. Il nous vient de Lausanne, en Suisse. Vous pouvez le suivre sur son Facebook. Il est très intéressant. Je vous mettrai donc le lien en commentaire. Avant de poursuivre cette émission sur la bipolarité avec l'interview de Quentin Brada, qui dure 9 minutes, donc on verra ça dans une petite dizaine de minutes, il me reste également à vous faire part d'un livre qui s'appelle « Les 4 saisons des troubles de l'humeur ». Les 4 saisons des troubles de l'humeur, c'est bien en lien avec la bipolarité, donc l'auteur Vincent Daniel, auteur de ce titre « Les 4 saisons des troubles de l'humeur », j'ai entre ses mains ce livre, illustré par un colibri en envol, qui représente également, je pense, la liberté. Et entre calme et sérénité, c'est ce que nous promet l'auteur à la fin de ce livre. Je vous lirai donc l'extrait de ce livre, les 10 premières pages, dans quelques instants. Juste avant, on va s'écouter un petit son et on se retrouve tout de suite.
11h30 midi, on parle de santé mentale dans le club Biponair avec Vince sur la 1337.
On a perdu cette notion aujourd'hui des beaux garçons. Quand est-ce qu'on va nous sortir des beaux mecs ou des filles sublimes? Enfin, vous mettez un poster de Hoshi dans votre chambre, vous? Elle est effrayante. Elle a du talent, cette fille, vraiment. Mais qu'elle donne ses chansons à des filles sublimes.
Qu'est-ce que c'est que cette époque musicale où on doit écouter ceux qui ont du talent? Qu'ont des tripes, qu'ont des couilles, qu'ont la dalle. Ces petits auteurs gratteurs de guitare accablants. Nous, ce qu'on veut, c'est du beau, c'est du brillant. C'est du propre, c'est du lisse, c'est du sublime. Nous, ce qu'on veut, c'est le retour des belles gueules pour remplir le papier glacé des magazines. Qu'est-ce que c'est que cette époque musicale où on écoute les paroles des chansons? On a perdu la notion des beaux mâles, l'époque où on lançait de très beaux garçons. Tu sais écrire des paroles, c'est très bien, mais ton petit grain de voix, on s'en fiche. S'il te plaît, va donner tes chansons à celui qui sera plus joli sur la fiche.
Il faut des gens beaux.
Il faut des gens beaux. Il faut des gens beaux. Il faut des gens beaux. Il faut des gens beaux. Il faut des gens beaux. Il faut des gens beaux. Il faut des gens beaux. Il faut des gens beaux.
On a négligé aujourd'hui le rôle du beau chanteur. Aujourd'hui, les gens qui réussissent, qui font carrière, c'est tous ceux qui grattent un peu de guitare, qui jouent du piano.
Eh hey monsieur, toi qui veux retourner au noir et blanc, aux belles heures du passé. Je suis pas sûr que le grand Charles Aznavour pouvait correspondre à tes critères de succès. Je suis pas persuadé qu'Edith Piaf possédait de belles jambes élancées, qu'elle allait défiler sur des beaux podiums avec des grandes marques de talons compensés. Eh hey monsieur, toi qui es nostalgique, des chanteurs bien foutus, des bimbos. Faut que tu saches un secret important, c'est que Brassens n'avait pas de beaux abdominaux. Les auteurs, compositeurs, chanteurs ne sont pas forcément des imposteurs. Tu sais monsieur, parfois il faut se taire. Moi je me vois Hoshi sur un poster.
Il faut des gens beaux.
Beaux garçons. Il faut des gens beaux.
Des gens beaux, message positif de Grand Corps Malade. Grand Corps Malade, on l'écoutera également dans nos prochaines émissions avec Camille, Mais je t'aime, ou encore un Kimber Rose, d'aux plus belles années. Vous pouvez vous procurer son album, il est incroyable. Je vais vous donc, comme promis, avant l'interview, la lecture du livre de ce jour, « Les 4 saisons des troubles de l'humeur ». On entend bien hein, le bruit des pages qui se tournent. C'est important hein, de tenir entre ses mains un livre, de se ressortir un peu des écrans. Dites-nous également si vous avez des conseils littéraires, un livre qui vous détend. On attend vos messages en interactivité. L'émission au 09 72 28 98 50. Vincent, pour vous servir, pour vous écouter. Et promis, je vous mets dans la bio, dans la description également, mes sources et donc le psychologue qui vous donne des petits conseils en vidéo réelle sur TikTok et Facebook. Vous retrouverez bien sûr tout ça à l'écrit. Allez, tout de suite, la petite lecture. Un beau matin d'été. C'est le titre du premier chapitre. J'entends les oiseaux chanter. J'imagine un rouge-gorge posé sur les branches. Des pies survolant le jardin. J'ouvre les yeux sur une grande plaine et au loin, une immense champ de jonquilles illumine l'horizon. Mon regard, au premier plan, se pose sur une étendue de passiflore recouvrant la clôture, qui délimite mon futur chez moi. J'imagine les bienfaits d'une tisane issue de ces fleurs. Mon corps et mon esprit se reposent et se prélassent dans ce beau jardin. Plus près encore, au ras du sol, un hibiscus ouvre ses premiers bourgeons. Vivement le premier thé glacé, rafraîchissant, à l'hibiscus, rouge, rouge, rouge sang comme le sang qui circule dans mes veines. Je reprends conscience de mon corps, allongé sur l'herbe, fraîchement coupé, les pieds qui grattent la terre, reconnexion avec la nature. Ça vous a donné envie de lire ce livre ? Vous pouvez le retrouver sur le site colibri.com. L'auteur a mis un extrait gratuit et vous pouvez le commander également pour un peu moins de 10 euros, frais de port compris.
Si je devais garder un souvenir du Téléthon, c'est pas particulièrement quelque chose de physique, mais c'est plutôt quelque chose d'humain. Et c'est Jeanne. Et c'est Jeanne qui a été pour moi, dans tous les sens du terme, une révélation, une rencontre riche, humaine, touchante, bouleversante. Et on n'oublie pas les rencontres humaines quand on vient sur le Téléthon.
Le Téléthon. On en parle et on sera en direct avec l'ensemble de la team des animateurs de la 1337. Rendez-vous donc pour un grand week-end spécial Téléthon. C'est ce week-end, ça commence vendredi 8 avec l'intro, 21h minuit, au cœur de la mobilisation, samedi 9. Et on poursuit dimanche 10 avec beaucoup d'émissions. Rendez-vous sur la page d'accueil de la 1337.com pour en savoir plus. Quant à moi, je vous donne rendez-vous également donc ce vendredi 8 pour la soirée d'introduction. Pour l'heure, voici une petite musique, Aretha Franklin, You Make Me Feel. Et on poursuit le cours de cette émission dédiée à la santé mentale, le Club Biponaire, bienvenue. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. Another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind, and you're the key to my peace of mind. 'Cause you make me feel, you make me feel.
Club Biponaire, c'est avec Vince jusqu'à midi.
Jusqu'à midi, je vous accompagne et rendez-vous le mois prochain, donc au mois de janvier 2024. Et oui, déjà une année découlée avec tous les nouveaux rendez-vous de la 1337. Vous devrez d'ailleurs profiter d'une soirée musicale à Avenel organisée par la 1337. Pour ça, on remercie l'équipe. Et tout de suite, comme promis en début d'émission, le but c'est de parler bipolarité aujourd'hui et donc de mettre à l'honneur ce témoignage de Quentin Bradra qui s'est guéri de cette maladie, qui a vraiment pris à bras le cœur. On écoute son interview et on se donne rendez-vous donc pour un prochain direct jeudi 11h30 midi en 2024. Bisous les amis.
Quand elle me diagnostique bipolaire, ça a été un soulagement. Je me suis dit, ok, je suis pas fou. Et j'ai compris, en fait, mes dernières années, et surtout mes derniers mois qui ont été chaotiques, où je suis vraiment passé du plus profond au plus haut. Plusieurs facteurs qui peuvent déclencher ça. Moi, je pense pas que j'ai été bipolaire dès ma naissance. Déjà, il y a souvent un facteur génétique. Ma psy reste persuadée que mon grand-père était bipolaire. C'est impossible de le savoir parce qu'en fait, il s'est suicidé. Il y a autre chose, c'est la consommation de cannabis, parce que j'étais quand même un gros fumeur. Et du coup, moi, c'est clair que ça a pas aidé. Et je pense qu'il y a aussi le facteur artistique, parce que moi, dès mes 16, 17, 18 ans, j'ai fait beaucoup de concerts, parce que j'étais en groupe. Donc, d'alternance de phases exaltantes, tous les week-ends, on était en concert, et la semaine où je retournais dans ma petite vie normale. Donc voilà, c'était un peu le yo-yo tout le temps. Je mélange un peu ces trois facteurs-là, et je pense que ça explique un peu tout ça. C'était impossible à déceler. Moi, il m'a fallu 9 ans où j'avais quand même ces alternances des fois de... Mais surtout de phases dépressives. Mais bon, pour moi, c'était... Moi, je me suis jamais dit que j'étais en dépression. Surtout que la dépression, c'est quand même un truc... De là où j'ai grandi, dans un milieu de mecs, c'est pas un truc dont on parle beaucoup. Premièrement, tu perds l'envie de faire quoi que ce soit. Donc, tu ne fais plus rien. Donc, tu n'as plus confiance en toi. Et j'avais vraiment l'impression qu'on avait éteint la lumière là-haut et j'étais plus capable de tenir une discussion, j'étais plus capable de regarder les gens dans les yeux. Et en fait, à chaque fois, bizarrement, ça revenait d'un coup, sans que je me l'explique. Moi, ça se traduisait par des phases où j'étais à 2000% tout le temps, je dormais très peu, j'étais très créatif. Donc comme je fais de la musique, moi c'était des périodes où j'écrivais tout le temps. C'est le jour et la nuit, mais sur des périodes, voilà, moi les périodes maniaques, c'est souvent un mois et demi, deux mois. Là où les périodes dépressives, ça peut être six mois... En fait, moi, c'est simple, hein. J'ai arrêté tous les six mois de la musique. C'est-à-dire que je reprenais, je me disais, ça y est, je vais reprendre la musique, je vais faire un album solo. Parce que moi, voilà, j'étais dans un groupe qui s'appelait Face Cachée. Et en fait, moi, vraiment, mon objectif, mon projet de vie, c'était d'arriver à faire un projet solo. Pendant deux, trois mois, j'étais super productif, j'écrivais, je me disais, mais oui, je suis fait pour ça. Et puis, au bout de deux, trois mois, tout se cassait la figure, j'abandonnais tous mes projets. Et donc, à chaque fois, c'était le même cercle, en fait. Et sauf qu'en fait, au fur et à mesure des années, ça a été les phases dépressives étaient de plus en plus violentes et les phases maniaques de plus en plus hautes. Pendant six mois, j'allais voir ma psy, j'avais l'impression que ça servait à rien et je suis désolé pour elle, mais vraiment, j'en sortais de là en me disant que je suis toujours aussi mal, à quoi ça sert. Au bout d'un moment, il se passait quelque chose qui faisait que, en fait, je remontais et donc, bon. Je me disais, t'es ton propre psy, il y a que toi qui peux te gérer et donc t'apprendre à te connaître. Sauf que je suis retombé l'année d'après, et encore plus profondément et encore plus longtemps. Et les seules pensées qui au fur et à mesure m'habitaient, c'était de me dire j'en peux plus et je pourrais pas faire ma vie comme ça. Tu te réveilles le matin et tu te dis que t'as envie d'en finir, quoi, que le seul moyen que ça s'arrête, c'est d'en arriver à faire le pire. Du coup, en HP, on m'a dit, vous êtes un dépressif chronique, voilà, un truc comme ça. Et donc, ils m'ont donné un traitement qu'il ne faut surtout pas donner à un bipolaire parce qu'en fait, ça te fait encore plus monter très haut en phase maniaque. J'ai commencé à être à 3000 à l'heure, à être à écrire tout le temps, à être très créatif et puis être un peu dans l'excès, à sortir, à peu dormir, boire un peu trop, fumer un peu trop, des dépenses d'argent inconsidérées, lancer 3000 projets, etc. Je suis vraiment passé de l'absence de confiance en soi à la surconfiance et j'en devenais limite chiant pour mon entourage. Ce qui, moi, était dur à entendre parce que je leur disais, mais les mecs, moi, ça faisait 6 mois que j'avais envie de crever et là, je revivais et je reprenais goût à la vie. Donc, pour moi, c'était la meilleure période de ma vie. Et comme j'étais créatif et que j'écrivais et que moi, c'était tout ce que j'attendais, c'était de pouvoir écrire et d'enfin commencer à faire mon album qui était un peu le projet de ma vie que j'avais jamais réussi à faire jusqu'ici parce que tous les 6 mois, j'abandonnais. Je dormais 3 heures par nuit, je me levais, j'écrivais parce que j'avais tout ça qui devait sortir en musique et c'est ce qui a donné mon album qui s'appelle Tout va bien. Je suis retourné voir ma psy un mois après où j'étais. Je suis arrivé dans le cabinet à 3000 et où je lui expliquais tout ce que j'avais fait depuis ma sortie d'HP, que je parlais super vite, que j'étais super excité. Elle m'a dit Quentin, faut se rendre à l'évidence en fait. Quand elle me diagnostique bipolaire, ça a été un soulagement. Je me suis dit ok, je suis pas fou parce que tout de suite elle m'a expliqué un petit peu et j'ai compris en fait. Mes dernières années et surtout mes derniers mois qui ont été chaotiques où je suis vraiment passé du plus profond au plus haut. Et en plus, tout de suite après, j'ai commencé à lire des témoignages de gens et je me suis tellement reconnu dedans que je me suis dit « Ok, je suis pas fou et je suis pas tout seul. » Et je suis beaucoup mieux depuis que je le sais. Et même des choses que je mettais pas sur le compte de la bipolarité, je me suis renseigné, j'ai vu que voilà, tout était un peu lié. J'ai toujours eu conscience d'être quelqu'un de sensible. Mais moi, je le refoulais vachement. Quand t'es un mec, que en plus t'as grandi en banlieue, que tu fais du rap encore plus, t'as pas trop le droit d'être sensible entre guillemets. Et une fois que j'ai compris que j'étais bipolaire, j'ai vachement plus accepté mon hypersensibilité. J'ai réussi à le mettre dans ma musique, cette sensibilité-là, et c'est ce qui m'a permis de l'exorciser un petit peu et d'en faire une force. C'est un traitement que je suis censé prendre à vie. Je dis censé parce qu'en fait, il y a des gens qui préfèrent l'arrêter et qui le vivent très bien, d'autres qui l'arrêtent et qui font des rechutes. Mais clairement, non, je veux pas jouer avec ça. Donc, je prends mon traitement et puis on verra plus tard. Donc moi, elle m'a dit, faut que tu... En plus de ce traitement-là, il te faut un entourage sain qui te fait du bien. Faut bien dormir. C'est aussi pour ça que j'ai arrêté le cannabis, d'ailleurs. Entre ma sortie d'HP et ma visite chez le psy un mois et demi après, pour moi, j'avais fini mon album. J'avais fait 25 sons, je suis arrivé chez ma psy, ça y est, j'ai mon album, machin. Quand je suis redescendu un petit peu, j'ai réécouté ce que j'avais fait, je me suis dit, bon, ok, on va reprendre un peu, ça peut être mieux. Cet album, c'est clairement ce qui m'a remis sur pied. Moi, j'avais besoin de ça et j'ai pu aussi me prouver que j'étais capable de faire de la musique sans être en phase maniaque. Je me suis dit, ok, t'es un artiste. Alors que ça faisait 10 ans que je faisais ça, que j'étais sur scène, que j'avais sorti 2 albums en groupe, j'avais toujours ce truc de ne pas me sentir artiste. Voilà, moi je suis fier de ce que j'ai fait. L'album, voilà, tu peux l'écouter en boucle et ça fait le cycle de mes dernières années. C'est-à-dire que je commence là, je monte très haut, puis je redescends très bas, et tout en me répétant constamment que, tout, en essayant de me dire jusqu'ici tout va bien. Il y a plein de gens qui mettent des années à s'en rendre compte, et plein de gens aussi qui ne s'en rendent jamais compte parce qu'il y a quand même un taux de suicide assez élevé chez ces personnes-là. Mais en fait, j'ai compris que voilà, il fallait du recul et c'est quand même une maladie un peu méconnue. Souvent, on dit t'es bipolaire parce que tu passes d'une humeur